إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue aujourd'hui cette série de cours sur la jurisprudence simplifiée, qui, comme je vous l'ai dit, est principalement basée sur le livre Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhawi al-Kitabi wa Sunnah, la jurisprudence simplifiée à la lumière du Coran et de la Sunnah, qui est un livre composé par un groupe de gens de science sous la supervision du Cheikh Saleh Ali Cheikh, hafidhahu Allah ta'ala. Nous avons vu lors du dernier cours une introduction préparatoire à l'étude du fiqh, dans laquelle nous avons vu la définition du fiqh, ses sources, ses bénéfices, ses mérites, ainsi que les cinq jugements, al-ahkam al-khamsa, auxquels on se réfère dans le fiqh. Nous allons aujourd'hui entrer dans le vif du sujet et commencer l'étude des règles de la purification. Les règles de la purification sont généralement traitées au début des livres de jurisprudence. Et ce car, comme vous le savez, la prière est le plus important des piliers de notre religion après les deux attestations de foi. Et la purification est la clé de la prière, comme il est venu dans le hadith, et la plus importante de ses conditions. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière d'une personne en état d'impureté jusqu'à ce qu'elle se purifie. Il est donc nécessaire pour le musulman de commencer par apprendre les règles de la purification, avant même les règles de la prière. Et c'est pour cela que les gens de science ont placé ces règles au début de leurs ouvrages de jurisprudence. Et nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, le premier chapitre du livre de la purification qui concerne quelques jugements sur la purification et les eaux. Et nous allons voir, Inch'Allah ta'ala, dans ce chapitre, six questions. La première concerne la définition de la purification et ses catégories. La deuxième, l'eau par laquelle on se purifie. La troisième, le jugement de l'eau à laquelle est mélangée une impureté. La quatrième, le jugement de l'eau à laquelle est mélangée une matière pure. La cinquième, le jugement de l'eau utilisée pour la purification. Et la sixième, le jugement des restes d'eau bu par des hommes ou des animaux. Donc la première question est: quelle est la définition de la purification? Et quelles sont ces catégories? Et avant de voir la définition de la purification, nous allons voir quelles sont ces catégories. Donc la purification se divise en deux catégories. La première est la purification morale, qui désigne la purification du cœur de tout ce qui peut le souiller, à commencer par le purifier du polythéisme, mais aussi le purifier des péchés. Et la purification du cœur, elle est en réalité plus importante que la purification du corps. Car il n'est pas possible pour toi de concrétiser la purification de ton corps en présence de l'impureté du polythéisme. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 28 de Surat At-Tawbah: Innama al-mushrikuna najas. Les polythéistes ne sont qu'impureté. C'est-à-dire qu'ils sont atteints par cette impureté morale, l'impureté du polythéisme. Et ce qui est visé dans le verset, ce n'est pas une impureté physique, mais c'est l'impureté morale. Et cette catégorie de purification est étudiée dans les livres de croyance et de tawhid. C'est dans ces livres-là que l'on apprend à purifier son cœur, le purifier du polythéisme, le purifier des innovations et le purifier de tout ce qui pourrait le souiller. Et ceci est d'une grande importance pour le croyant. Il est d'une grande importance pour nous de purifier nos cœurs, d'apprendre qu'est-ce que le tawhid afin de le mettre en pratique, et d'apprendre son contraire qui est le shirk, le polythéisme, afin de pouvoir s'en écarter, s'en préserver. Car celui dont le cœur est souillé par l'impureté du shirk, même si c'est un faqih, que c'est un grand connaisseur des règles de la jurisprudence, qu'il connaît les règles de la purification à la perfection, qu'il connaît les règles de la prière à la perfection, et ainsi de suite, et qu'il met tout cela en pratique, mais qu'en parallèle de cela, son cœur est souillé par l'impureté du shirk, alors toutes ses connaissances ne lui seront d'aucun profit, et toutes ses œuvres également, car ceci ne sera que poussière éparpillée. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, La in ashrakta la yahbatan amaluk wa la takunanna min al khasirin. Si tu fais du shirk, si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront certes vaines et tu seras du nombre des perdants. Donc, la priorité pour le croyant doit être de concrétiser cette première catégorie de purification qui est la purification morale. Et il ne pourra concrétiser cela qu'en apprenant qu'est-ce que le tawhid, afin de le mettre en pratique, et en apprenant qu'est-ce que le shirk, afin de pouvoir s'en écarter. La deuxième catégorie de purification est la purification physique. Et c'est de cette catégorie dont il est question dans les livres de jurisprudence. Et c'est d'elle dont nous allons parler en détail, Inch'Allah ta'ala. Donc sa définition, dans la langue arabe, la purification à Tahara est définie par la propreté, al-nadhafa, et l'éloignement de toute souillure. Dans la langue arabe, la purification à Tahara est définie par la propreté, al-nadhafa, et l'éloignement de toute souillure. Et dans la terminologie religieuse, elle est définie par deux choses. Raf'ul hadath wa zawalul khabath. La levée ou le retrait de l'état d'impureté, al-hadath, et la disparition ou le nettoyage de l'impureté, al-khabath. Donc al-hadath, qu'on traduit par l'état d'impureté, il est défini comme étant l'état relatif au corps qui empêche d'accomplir la prière ou autre parmi les choses qui nécessitent la purification. Et comme on va le voir, il est de deux sortes, majeur et mineur. Donc la purification, dans la terminologie religieuse, elle repose sur ces deux choses. Le retrait de l'état d'impureté, le retrait d'al-hadath, et le nettoyage de al-khabath, l'impureté. Ce qui est visé par la levée d'al-hadath, c'est le retrait de l'état qui empêche l'accomplissement de la prière. Et ce, en utilisant l'eau sur l'ensemble du corps, si l'état d'impureté est un état d'impureté majeur, et ce, en faisant le ghusl, et si l'état d'impureté est un état d'impureté mineur, en faisant passer l'eau sur les membres des ablutions de la manière légiférée, et ceci intentionnellement. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que l'eau touche ses membres, mais il est indispensable d'avoir l'intention de lever cet état d'impureté, comme on le verra dans les chapitres liés aux règles des ablutions et aux règles du ghusl. Et s'il n'y a pas d'eau, ou qu'on ne peut pas utiliser l'eau, on utilisera alors ce qui s'y substitue, c'est-à-dire la terre, et ce de la façon ordonnée religieusement, et ceci également sera évoqué, incha'Allah ta'ala, dans le chapitre des ablutions sèches, dans le chapitre du tayammum. Ceci est donc la première chose qui est concernée par at-tahara dans la terminologie religieuse, la levée ou le retrait de l'état d'impureté, d'al-hadath. La deuxième chose, c'est le nettoyage de l'impureté, le nettoyage d'al-khabath, qui consiste à nettoyer l'impureté qui peut être présente sur trois choses, sur le corps, sur le vêtement et sur le lieu. Il est impératif de purifier ces trois choses, le corps, le vêtement et le lieu. On voit donc à travers cette définition que la purification physique est de deux sortes. La purification physique est de deux sortes. La première est la purification de l'état d'impureté, qui est spécifique au corps, et la deuxième est la purification de l'impureté d'al-khabath, qui peut être sur le corps, le vêtement ou le lieu. Et l'état d'impureté, al-hadath, il est de deux sortes. Il y a l'état d'impureté mineur, qui est celui qui nécessite les ablutions, et l'état d'impureté majeur, qui est celui qui nécessite le lavage rituel, al-ghusl, les grandes ablutions. Ceci concerne donc al-hadath, l'état d'impureté. Et l'impureté, al-khabath, elle est de trois sortes. Il y a une impureté qui doit être lavée, une impureté qui doit être aspergée d'eau et qui ne nécessite pas d'être lavée, et une impureté qu'il suffit de frotter ou de frictionner ou de gratter. Et tous les détails à ce sujet, Inch'Allah ta'ala, ils seront traités dans les prochains cours. Mais ceci est juste un aperçu de ces différentes catégories. Ceci était donc la première question qui concernait la définition de la purification ainsi que ses catégories. La deuxième question que l'on va voir aujourd'hui est quelle est l'eau par laquelle on se purifie? Pour te purifier, tu as besoin d'une chose par laquelle te purifier, afin de nettoyer l'impureté, afin de nettoyer al-khabath et de retirer l'état d'impureté, de retirer le hadath. Et cette chose par laquelle tu te purifies est l'eau. Il est donc nécessaire pour nous de savoir quelle est l'eau par laquelle on se purifie. Et l'eau par laquelle on se purifie est l'eau qui est appelée al-ma at-tahour, l'eau qui est pure et purifiante. C'est-à-dire qu'elle est pure en elle-même et purifiante pour autre qu'elle. Et cette eau est celle qui est restée à son état naturel, c'est-à-dire qu'elle a gardé ses caractéristiques sur lesquelles elle a été créée, que cette eau descende du ciel comme la pluie, la neige ou la grêle fondue, ou bien qu'elle coule sur terre comme l'eau des fleuves, l'eau des ruisseaux, des puits ou des mers. Et la preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit dans son noble livre verset 11 de Sourate Al-Anfal, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ. Et du ciel, il fit descendre de l'eau sur vous afin de vous purifier. Donc on voit à travers ce verset que l'eau qui descend du ciel est une eau qui nous permet de nous purifier. Également, il dit subhanahu wa ta'ala au verset 48 de Sourate Al-Furqan, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Nous fîmes descendre du ciel une eau tahour, une eau pure et purifiante. De même que ceci est prouvé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette invocation qu'il a enseignée à Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, qui est l'invocation d'ouverture de la prière, dans laquelle il dit Allahumma ighsilni min khataayaay bil-maa'i wath-thalji wal-barad. Ô Allah, purifie-moi de mes péchés par l'eau, la neige et la grêle. De même qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'eau de la mer, son eau est pure et purifiante, et ses bêtes mortes sont licites. Donc le premier hadith est reconnu authentique à l'unanimité. Il est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Quant au hadith sur l'eau de la mer, il est rapporté dans la Sunan par les imams Abu Daoud, al-Tirmidhi, al-Nasa'i et Ibn Majah. Il a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahumallahu ta'ala. On voit donc à travers ces différents textes que la base concernant ces eaux est qu'elles sont pures et purifiantes. Et il est à souligner ici qu'il n'est pas possible de se purifier avec un autre liquide que l'eau, quel qu'il soit, que ce soit de l'huile, du vinaigre, du jus ou autre chose semblable. Et ce, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 6 de Surat al-Ma'ida, dans lequel il a dit فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. On voit donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'absence d'eau, il nous a ordonné d'avoir recours au tayammum, d'avoir recours à la terre pure. Et si on pouvait se purifier avec un autre liquide que l'eau, alors il aura ordonné à celui qui n'a pas d'eau d'avoir recours à ce liquide et il n'y aurait pas ordonné d'avoir recours à la terre pure. La troisième question, toujours liée aux eaux, est quel est le jugement de l'eau à laquelle est mélangée une impureté? Et pour bien comprendre cette question, il faut savoir que l'eau a trois propriétés principales qui sont l'odeur, le goût et la couleur. Si une impureté est mélangée à l'eau et que celle-ci altère une des trois propriétés de l'eau, qu'elle altère son odeur, ou alors qu'elle altère son goût, ou bien qu'elle altère sa couleur, alors cette eau devient impure à l'unanimité des gens de science et il n'est pas permis de l'utiliser, ni pour se purifier, ni pour nettoyer un lieu, ni pour la consommer ou autre utilisation. Cette eau sera impure, il ne sera donc pas possible de se purifier avec, ni de nettoyer l'impureté, et ce, qu'elle soit en grande ou en petite quantité. Et il n'y a pas de divergence à ce sujet entre les gens de science. Si une des trois propriétés de l'eau est altérée, elle devient impure. Mais si une impureté se mélange à elle, sans altérer une de ses propriétés, alors dans cette situation, ils font ici la différence entre l'eau en grande ou en petite quantité. Ils disent ici que si l'eau est en grande quantité, elle ne devient pas impure et que l'on peut se purifier avec, mais que si elle est en petite quantité, elle devient impure et on ne peut pas se purifier avec. On parle ici donc de l'eau à laquelle une impureté est mélangée sans altérer aucune de ses propriétés. Et la question qui se pose alors est, comment différencier entre l'eau en petite ou en grande quantité? À partir de quand je peux juger qu'une eau est en petite quantité ou en grande quantité? La réponse est que l'eau en grande quantité est ce qui atteint l'équivalent de 2 jarres ou plus. Et la jarre a été évaluée à une quantité d'eau équivalent à 93,075 sa'a, c'est-à-dire 160,5 litres d'eau. Donc 2 jarres équivalent à 321 litres. Donc toute eau d'une quantité équivalent à 321 litres ou plus est considérée comme étant en grande quantité. Et l'eau en petite quantité, ce qui est inférieur à cela, inférieur à 2 jarres. La preuve sur laquelle ils se sont basés est le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: L'eau est pure et purifiante et rien ne la souille, rien ne la rend impure. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, ainsi qu'Abu Daoud, An-Nasa'i et Tirmidhi, et il a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahumullah ta'ala. Ils se sont aussi basés sur le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Si l'eau atteint la quantité du contenu de 2 jarres, elle ne porte alors aucune souillure. Et ce hadith est également rapporté par l'imam Ahmad et il a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahumallahu ta'ala. On voit donc à travers cela que si l'eau est mélangée à une impureté et que cette impureté ne modifie aucune des propriétés de l'eau, ni son goût, ni son odeur, ni sa couleur. Ils font ici la différence entre l'eau en grande ou en petite quantité. Si la quantité de l'eau est inférieure à 321 litres, ils considèrent qu'elle devient impure. Et si la quantité de l'eau est égale ou supérieure à 321 litres, alors ils considèrent qu'elle reste pure et purifiante. Et j'attire votre attention ici qu'en ce qui concerne l'eau en grande quantité, les gens de science sont unanimes à ce sujet. Si aucune des propriétés de l'eau n'est altérée, elle reste pure et purifiante. Mais ils ont divergé concernant l'eau en petite quantité. Et la vue soutenue ici par les auteurs est qu'elle est impure. Cependant, d'autres savants ont mentionné que l'eau ne devient impure qu'à une condition. C'est que l'une de ses propriétés soit altérée par une impureté. C'est-à-dire qu'une impureté altère son odeur, son goût ou sa couleur. Peu importe sa quantité. Donc si une impureté se mélange à l'eau, que cette eau est en petite quantité, inférieure à 2 jarres, inférieure à 321 litres, et qu'elle altère une de ses propriétés, elle est alors impure. Mais si elle n'altère aucune de ses propriétés, l'eau reste pure et purifiante. On peut se purifier avec. Et ceci est l'avis soutenu à notre époque par l'éminent cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, et avant lui, cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ainsi que nombreux parmi les compagnons et les pieux prédécesseurs, radiyallahu ta'ala anhum. Toutefois, il reste obligatoire de faire preuve de prudence à ce sujet, surtout lorsque l'eau est en très petite quantité et qu'elle a été mélangée à une impureté. Et que faire en cas de doute sur la pureté de l'eau? J'ai une eau et j'ai besoin de me purifier, mais je ne sais pas si cette eau est pure ou impure. La réponse est que la base et que l'eau est pure jusqu'à preuve du contraire. Il est donc permis de te purifier avec celle-ci tant que tu n'as pas la certitude que celle-ci est impure. Il y a certaines personnes parfois qui marchent dans de l'eau qui peut se trouver dans la rue, une flaque d'eau ou autre. Ils pensent alors qu'ils doivent changer de vêtements pour prier. Alors que la base concernant cette eau est que c'est une eau qui est pure. Tu ne peux pas la considérer impure, sauf si tu as la preuve de cela. Si par exemple tu as remarqué à travers une odeur, par exemple, qu'elle a été touchée par une impureté. Mais si ce n'est pas le cas, alors la base est que cette eau est pure et qu'il n'est pas nécessaire de te nettoyer. La quatrième question que l'on va voir est: quel est le jugement de l'eau mélangée à une matière pure? C'est-à-dire que si une eau est, par exemple, mélangée à de la terre, à des feuilles d'arbres, à du savon ou autre parmi les matières pures, alors l'avis le plus juste à ce sujet et que cette eau reste pure et purifiante, et qu'il est permis de l'utiliser pour se purifier de l'état d'impureté d'Al-Hadath et pour nettoyer l'impureté d'Al-Khabath, tant que celle-ci est appelée eau, c'est-à-dire que la chose qui s'est mélangée à elle n'a pas pris le dessus sur elle. À titre d'exemple, si on met un sachet de thé dans un verre d'eau, ce sachet de thé est une chose pure. Il ne rend donc pas l'eau impure. Toutefois, celle-ci n'est plus purifiante. Pourquoi? Car ce n'est plus de l'eau. Une fois mélangé au sachet de thé, on dira que c'est du thé, également avec du sirop ou autre chose semblable. Mais si cette eau a été touchée par un peu de savon, par exemple une personne, un pris à bain, et s'est nettoyée avec du savon, L'eau qui est présente dans ce bain, bien sûr, elle est encore pure. Mais est-elle purifiante? La réponse est oui, elle est purifiante, car c'est encore de l'eau. Et il est permis de t'en servir pour te purifier, tant que celle-ci est de l'eau. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 43 de Sourate An-Nisa, lorsqu'il dit: Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Si vous ne trouvez pas d'eau, alors ayez recours à une terre pure. On voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a généralisé en disant: si vous ne trouvez pas d'eau, ma'an. Pour ceux qui ont fait un minimum de cours d'arabe, le mot ma ici, il est nakira, il est indéfini. Et lorsqu'un mot indéfini est mentionné dans une phrase négative, falam tajidu ma'an, si vous ne trouvez pas d'eau, alors il indique la généralité. C'est-à-dire quelle que soit cette eau, que cette eau soit pure dans le sens où elle n'a été mélangée à rien, ou alors que cette eau ait été mélangée à une chose pure, qui ne lui a pas fait perdre son nom. Également, parmi les preuves à ce sujet, il y a le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné aux femmes qui s'occupaient de préparer sa fille après sa mort, et il leur a dit: lavez-la 3 ou 5 fois, ou plus, si vous voyez que cela est nécessaire, avec de l'eau et du cidre, avec de l'eau et du jujubier. Et la dernière fois, lavez-la avec de l'eau et du camphre ou un peu de camphre. On voit donc que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a ordonné de la laver avec de l'eau mélangée à une chose pure, du jujubier, et la dernière fois avec du camphre. Ceci nous prouve donc que lorsque l'eau est mélangée à une chose pure, elle ne perd pas son caractère purifiant. On voit donc à travers cela que l'eau, en réalité, ne se divise qu'en deux catégories. Al-ma' at-tahur, l'eau pure et purifiante, Al-ma' an-najis, et l'eau impure. Et il n'y a pas de troisième catégorie, comme certains parmi les gens de science le mentionnent, en disant qu'il y a une catégorie intermédiaire qui est Al-ma' at-tahir, l'eau pure et non purifiante. Et ce car il n'y a aucune preuve démontrant l'existence de cette catégorie d'eau. Mais les textes nous démontrent que l'eau ne se divise qu'en deux catégories, l'eau pure et purifiante et l'eau impure. La cinquième question que nous allons voir aujourd'hui est: quel est le jugement de l'eau utilisée pour la purification? C'est-à-dire qu'une personne s'est purifiée, a fait ses ablutions, a fait le ghusl, et de l'eau a coulé de ses membres. Est-ce que cette eau est pure et purifiante ou non? La réponse à ce sujet est que l'avis le plus juste est que cette eau est pure et purifiante. Il est permis de l'utiliser pour se purifier de l'état d'impureté, d'al-hadath, et pour nettoyer les impuretés, al-khabath, à partir du moment où aucune de ses propriétés n'a été modifiée. La preuve à ce sujet est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait ses ablutions, ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, étaient prêts à se combattre les uns les autres pour récupérer le reste de l'eau de ses ablutions. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Et ce car tout ce qui coulait du prophète sallallahu alayhi wa sallam était béni par Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Également, il est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour versé de l'eau de ses ablutions sur Jabir radiyallahu ta'ala anhu. Donc, si l'eau utilisée pour la purification était impure, il n'aurait pas pu faire cela sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, ces hadiths nous démontrent que l'eau utilisée lors des ablutions ne perd pas son caractère purifiant. Le simple fait que l'eau ait été touchée par une personne ne lui fait pas perdre son caractère purifiant. Et il est certes venu dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira: certes, le croyant ne devient pas impur. Enfin, la sixième question que nous allons voir aujourd'hui est: quel est le jugement des restes d'eau bu par des hommes ou des animaux? Donc, ce qui est visé ici, c'est l'eau qu'il reste dans un verre ou dans un récipient ou autre après qu'en ait bu un homme ou un animal. Et la réponse à cette question est qu'en ce qui concerne l'être humain, celui-ci est pur. Donc, ses restes d'eau sont purs également, et ce qu'il soit musulman ou mécréant. Car, comme on l'a mentionné précédemment, l'impureté du polythéiste est une impureté morale et non pas une impureté physique. Donc ces restes d'eau sont purs. Également, si une personne est en état de grande impureté, en état de janaba, ou alors la femme qui a ses menstrues, les restes de leur eau sont purs. En effet, il est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu précédemment dans le hadith rapporté par Muslim, qu'il a dit à Abu Hurayra, le croyant ne devient pas impur. Et dans un autre hadith rapporté également par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, Aïcha radiallahu ta'ala anha rapporte qu'elle buvait dans un récipient alors qu'elle avait ses menstrues, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait de ce récipient en posant sa bouche à l'endroit où elle avait elle-même posé sa bouche. Donc ceci concerne les restes d'eau bues par des hommes. Et concernant l'eau bue par les animaux, les gens de science sont unanimes concernant la pureté des restes d'eau bus par des animaux dont la viande est consommable, comme par exemple le bétail, les chameaux, les moutons, les chèvres, les poules et autres. Tous les animaux qui sont licites à la consommation. Les restes d'eau qu'ils boivent sont purs. Quant aux animaux qui ne sont pas licites à la consommation, comme les fauves, les ânes ou autres animaux semblables, alors ce qui est juste à ce sujet est que leurs restes d'eau sont purs et que ceci n'a pas d'influence sur le caractère de l'eau, surtout si cette eau est en grande quantité. Toutefois, si l'eau est en petite quantité et qu'une de ses propriétés a été altérée en raison du fait que ces animaux aient bu, alors celle-ci devient impure, si ceci a altéré son goût, son odeur ou sa couleur. Et la preuve à ce sujet est le hadith que l'on a mentionné précédemment. Lorsque l'eau atteint la quantité de 2 jars, elle ne peut être souillée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prononcé cette parole lorsqu'il a été interrogé au sujet de l'eau dans laquelle venaient boire les animaux et les fauves. Il a alors dit, si l'eau atteint la quantité de 2 jars, elle ne peut être souillée. Et comme on l'a vu, l'eau n'est souillée que si une de ses propriétés est altérée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du chat qui boit dans le récipient que celui-ci n'est pas impur, car le chat fait partie des animaux qui entrent et qui sortent dans les maisons. Il serait donc difficile de s'en préserver. Et si on disait que les restes d'eau du chat étaient impurs et qu'il était obligatoire de laver les choses qu'il aurait touchées, il y aurait en cela une grande difficulté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exempté cette communauté de la difficulté. Enfin, concernant les restes d'eau du chien et du porc, alors ceux-ci sont impurs. La preuve à ce sujet concernant le chien est le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. D'après Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le chien boit dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave alors 7 fois et dans la narration de Muslim, la première fois avec de la terre. Ceci nous montre donc que les restes d'eau du chien est impur et que cette eau ne peut être utilisée pour se purifier. Mais il est obligatoire de la vider et de laver le récipient dans lequel le chien a bu en le lavant 7 fois et la première fois avec de la terre. Et il en est de même pour tout ce qui est touché par l'humidité du chien, que ce soit sa bave ou l'humidité de son museau ou encore son urine. Ceci doit être lavé 7 fois, la première fois avec de la terre et les fois suivantes avec de l'eau. Et en ce qui concerne le porc, ceci est en raison de son impureté, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 145 de Surat al-An'am, fa'innahu rijasun, car c'est une souillure en parlant de la chair de porc. Il n'est donc pas permis d'utiliser les restes d'eau du porc. On a donc terminé avec ce chapitre concernant les eaux et on verra dans notre prochain cours, la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, quelques règles liées au récipient. On va donc s'arrêter là. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.